en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, Georges Cuvier, de son vrai nom Jean-Léopold Nicolas Frédéric Cuvier, était un naturaliste du XVIIIe siècle. Il se disait antiquaire d'une espèce nouvelle. Il a en effet été un des premiers à s'intéresser aux fossiles d'espèces inconnues, et pour cause, puisqu'elles avaient disparu. Précurseur de la paléontologie, anatomiste touche-à-tout, s'intéressant à la fois aux insectes, à la faune marine et aux mammifères, il est le père de la classification moderne des animaux. Rien ne prédestinait au départ Georges Cuvier, issu d'un milieu plutôt modeste, à devenir un personnage de l'histoire des sciences, à la fois membre de l'Académie des sciences, de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Aujourd'hui, un peu oublié et surtout mal aimé pour ses théories racistes, le public garde en mémoire aujourd'hui sa description et la dissection de la Vénus Hottentot, cette femme noire emmenée en Europe à une époque où, précisons-le, on prônait la théorie des races supérieures et inférieures. Pour dresser avec nous le portrait de Georges Cuvier, l'académicien des sciences et paléontologue Philippe Taquet est avec nous. Monsieur, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous avez écrit le premier tome, si je puis dire, de la vie de Georges Cuvier, intitulé « Georges Cuvier, naissance d'un génie » aux éditions Odile Jacob en 2006. Le deuxième tome devrait arriver d'ici quelques temps. Dans votre à vos propos, vous écrivez que Georges Cuvier est plus connu et plus aimé dans les pays anglo-saxons qu'en France. Pourquoi, Philippe Taquet ?
Probablement parce que nos amis anglais, américains, allemands, qui font beaucoup d'histoire des sciences et d'histoire des sciences naturelles, reconnaissent l'apport considérable qu'eut Georges Cuvier dans l'Odyssée des sciences naturelles, en particulier comme le fondateur de l'anatomie comparée, celui qui donne vraiment ses lettres de noblesse à cette discipline. Et l'anatomiste qu'était Cuvier, qui était très très doué, a utilisé ses capacités intellectuelles et les lois de l'anatomie comparée qu'il a essayé d'affiner pour se plonger dans l'étude comparée des animaux du passé disparus. Donc il est à la fois le chantre de l'anatomie comparée et le fondateur de la paléontologie des vertébrés et des recherches sur les ossements fossiles. De ce fait, il est aussi l'homme qui crée, définit ce qu'on appelle aujourd'hui en histoire des sciences la géohistoire. Et c'est un concept très intéressant dont on pourra reparler, qui utilise finalement les fossiles pour retracer les étapes de l'histoire de la vie sur Terre. Eh bien, ces apports sont reconnus universellement, mais particulièrement par les auteurs anglais et américains. Et le dernier grand traité d'histoire de la géologie, rédigé par un anglais célèbre qui s'appelle Martin Rudwick, rend un hommage vibrant à Georges Cuvier.
Un hommage vibrant que vous aussi vous rendez. Vous écrivez également dans votre à vos propos « Georges Cuvier a changé profondément la perception que l'homme a de la nature qui l'entoure, ainsi que le regard qu'il porte sur l'histoire de la planète sur laquelle il vit ».
Oui, je vais vous donner deux exemples assez amusants, intéressants d'ailleurs, qui montrent son influence dans le milieu du XIXe siècle avec ses travaux. Ainsi, Balzac a écrit sa comédie humaine en utilisant la méthode Cuvier de l'anatomie comparée. Dans la préface à la comédie humaine, Balzac dit « Je vais décrire la société des hommes du XIXe siècle avec la même méthode de Cuvier et comparer les hommes entre eux ». Voilà un exemple frappant sur la littérature. Mais un autre exemple qui concerne plus l'Académie des inscriptions et belles-lettres, c'est Littré, le grand homme du dictionnaire, qui dit et écrit avec juste raison que, eh bien, le sanskrit est une langue qui a révélé, lorsqu'elle a été déchiffrée, des mondes inconnus d'Asie, de la même manière que Cuvier, avec sa méthode, a révélé au monde des mondes d'animaux disparus. Voilà, au fond, l'influence très profonde de Cuvier sur son siècle, et encore aujourd'hui, c'est toujours le cas.
Alors c'est amusant, vous citez Balzac, il faut préciser que Balzac plus tard sera assez opposé à Cuvier. Et c'est une des particularités du personnage Georges Cuvier, c'est qu'il est à la fois adulé, admiré et tout autant détesté.
Voilà, vous avez raison de souligner ce point. Balzac cite Cuvier à tout propos, dans La peau de chagrin, dans Les splendeurs et misères des courtisanes, mais en fait Balzac était ami avec Étienne Geoffroy-Saint-Hilaire, qui fut l'ami de Cuvier avant de devenir son rival en science. Et ils ont eu ensemble une querelle très célèbre sur l'unité de plan des organismes, qui est un concept très intéressant, qui a agité la société en 1830, presque plus que la révolution de 1830, au point que Goethe en Allemagne disait « mais il se passe des choses incroyables en France, c'est le débat Cuvier-Geoffroy-Saint-Hilaire », devant d'ailleurs les instances de l'Institut et de l'Académie des sciences. Pourquoi ? Parce que Cuvier refusait de voir le monde évoluer au cours de son histoire. Au contraire, il y avait des plans fixes de l'anatomie des animaux et très distincts les uns des autres. Alors que Geoffroy-Saint-Hilaire, et Lamarck évidemment, mais surtout Geoffroy-Saint-Hilaire, voyait une unité du monde vivant, l'unité de plan, qui était une idée assez de poète, mais qui a été vérifiée aujourd'hui depuis grâce au progrès des sciences.
Et on va y venir au cours de cette émission. Maintenant, je vous propose de vous intéresser un peu au parcours de Georges Cuvier. On va démarrer l'histoire à Montbéliard, puisque c'est là où il est né, Montbéliard, dans le Doubs, pas très loin de la frontière suisse aujourd'hui, né en 1769 dans une famille luthérienne. Et comme je le disais au tout début de cette émission, donc son prénom aujourd'hui, on l'appelle Georges Cuvier, mais au départ, parmi tous les noms qu'il porte, ne figure pas Georges. Alors pourquoi Philippe Taquet s'appelle-t-il aujourd'hui Georges Cuvier ? Georges Cuvier.
Voilà, c'est le premier événement qui marque sa vie. En fait, Cuvier a eu un frère aîné, juste quelques années avant sa naissance. Sa maman avait accouché d'un petit garçon qu'elle avait appelé Georges et qui est mort de maladie en bas âge. Et donc, toute l'affection de sa mère s'est reportée sur ce deuxième fils qu'elle a eu. Et au lieu de garder tous les prénoms de l'état civil, elle a appelé Cuvier Georges du nom de son premier fils, qui est tout de même assez lourd à porter. Et Cuvier, dans son autobiographie, fait allusion à cet événement, tout en déformant d'ailleurs un petit peu la réalité. Mais donc, c'était difficile pour lui, et il est resté pour la postérité avec le prénom de Georges.
Alors, c'est important de savoir où il est né, puisque à Montbéliard, l'école est obligatoire. Et donc, très vite, il apprend la lecture, il apprend le calcul, et c'est un élève brillant, Philippe Taquet.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que dans ce qu'on appelait à l'époque le pays de Montbéliard, qui n'a été rattaché à la France qu'en 1793, au moment de la Révolution, ce pays était rattaché au duc de Württemberg. Et que les Montbéliardais portaient une grande attention à l'éducation de leur jeunesse, en ayant des collèges et un gymnasium, c'est-à-dire une espèce de lycée à la façon allemande, comme dans le pays du Württemberg, pour former, si possible, de très bons éléments qui seraient, dans le futur, les notables, les cadres du pays de Montbéliard. Et les meilleurs sujets étaient choisis et envoyés à Stuttgart pour faire des études à l'université Caroline, créée par le duc du Württemberg, où étaient formés les cadres du duché du Württemberg. Donc Cuvier, qui était brillant, a été distingué et parti à l'âge de 18 ans, en 1784, à Stuttgart, pour y faire des études, alors qu'il ne parlait pas un mot d'allemand. Le pays de Montbéliard parlait français, tout en ayant des attaches avec le Württemberg. Et donc Cuvier va à Stuttgart et va pendant 4 ans apprendre l'allemand, d'abord très vite. Dès la première année, il aura un prix en allemand, ce qui montre ses capacités d'intégration. Et puis va surtout recevoir une éducation très originale qui n'était pas celle des Français à l'époque, c'est-à-dire des cours d'économie, de gestion forestière, de droit administratif et bien sûr un peu de science, mais ce sont les sciences qui vont passionner Cuvier, mais toute sa vie, il retiendra cette partie originale de sa formation qui vont lui servir énormément plus tard. Il sera non seulement un bon scientifique, un bon naturaliste, mais il sera un très bon administrateur, un très bon spécialiste du droit, ce qui explique que les multiples casquettes qu'on lui coiffera plus tard dans son parcours, c'est-à-dire responsable des universités, conseil d'État, ministre des cultes non catholiques, en plus de sa vocation de naturaliste.
Et alors, un écho assez curieux, et vous l'écrivez dans votre biographie « Naissance d'un génie » Georges Cuvier, vous écrivez qu'à l'âge de 14 ans déjà, il crée avec des amis sa propre académie et tous les jeudis, il donne rendez-vous à ses amis pour faire des lectures.
Oui, c'est un aspect très étonnant de sa personnalité, qui montre d'ailleurs sa forte personnalité. Très tôt, Cuvier, et c'est le cas là, va organiser et va toujours être le secrétaire des groupements qu'il formule.
Et donc c'est un leader quand même, dès le début.
C'est un leader, tout à fait, un animateur. Il organise ensuite une promenade dans le Württemberg pour étudier la société allemande de son époque. Et puis, dès son arrivée à Paris, eh bien, en très peu de temps, il deviendra secrétaire perpétuel de l'Académie. C'est dans sa nature, parce qu'il est très efficace. Il sait rédiger les rapports et en effet, il sait parfaitement gérer toutes sortes de situations avec beaucoup d'autorité. Il adore ça.
Alors en 1788, il part de Stuttgart et il devient précepteur à l'âge de 20 ans. Et il part en Normandie dans une famille qui est la famille d'Hérissy. Alors là, ça serait bien que vous puissiez nous raconter cette histoire, puisqu'il y reste quelques années là-bas en Normandie, près
oui,
des camps.
Oui, en fait, il n'est pas resté dans le Württemberg, où il aurait aimé rester comme cadre du duc de Württemberg, mais évidemment, il était du pays de Montbéliard, il n'a pas eu la priorité d'un recrutement, c'était le problème de trouver un emploi à cette époque-là, et donc il a pris la suite d'un de ses coreligionnaires et habitants de Montbéliard, Parot, qui a laissé un poste de précepteur dans une famille noble de Normandie, mais luthérienne, protestante. Et donc il va quitter Montbéliard, prendre la diligence et se rendre à Caen, en Normandie, où vivait la famille du comte et de la comtesse d'Hérissy. Des gens charmants, et c'est dans ces années que Cuvier va découvrir les sciences naturelles, ayant du temps libre, parce qu'il avait un élève qui s'appelait Achille d'Hérissy, il avait beaucoup de temps libre, mais en même temps, ce sont les années de la Révolution. Et il va traverser ces années un peu pas caché en Normandie, mais dans la tranquillité de la campagne normande, la famille d'Hérissy se réfugie à Ficainville, où elle avait une demeure à la campagne, ce qui permet de traverser les années de la Révolution de façon relativement calme, encore que Cuvier étant instruit et sachant bien écrire, immédiatement il devient le secrétaire greffier de la commune révolutionnaire de Bec-en-Cauchois. Et on a retrouvé les comptes rendus de la communauté révolutionnaire de Bec-en-Cauchois, qui sont d'ailleurs parfois pleins d'humour, parce qu'il se passe des événements assez étonnants, où on vient réquisitionner les cloches du village et tout ça. Mais pendant ce temps-là, Cuvier va disséquer, découvrir le monde des organismes marins, et disséquer tout ce qui lui tombe sous la main. Aussi bien le chat que le perroquet de la comtesse d'Hérissy, que des poissons qu'il achète sur le marché à Caen. Et il va parfaire sa formation et tout de suite, on sent cette volonté dans des lettres qu'il envoie à un ami resté en Allemagne, qui s'appelait Pfaff, « Je veux devenir l'Aristote des temps modernes », c'est-à-dire refaire les animaux d'Aristote, mais de façon actualisée.
Alors cette formation naturaliste, finalement, il l'obtient en tant qu'autodidacte, au contact de la famille d'Hérissy, puisqu'il est proche, justement, des côtes. Ou est-ce que c'est aussi les premières études à Stuttgart qui le mènent vers cette voie ?
Non, il sera d'une certaine manière autodidacte. À Stuttgart, il va rencontrer des gens qui ont marqué sa vie, comme Kielmeyer, qui était un grand anatomiste, qui va lui apprendre à disséquer. Mais non, il va se former lui-même et surtout dévorer tout ce qui lui tombe sous la main. Il va fréquenter la bibliothèque de Caen et les grands traités d'histoire naturelle. Et va très vite réaliser qu'il est capable de découvrir plus de choses et des choses inédites. Et tout de suite, il va avoir une bonne stratégie. Il va envoyer ses premiers manuscrits à Paris, à ces messieurs du Jardin des Plantes, qui a été réformé en 1793, au moment de la Révolution, et qui est devenu non plus le Jardin Royal, mais le Muséum National d'Histoire Naturelle. Et il va se faire remarquer, en particulier par l'ACEPED et par les professeurs du Muséum.
C'est aussi un des traits du personnage, c'est qu'il apparaît quand même assez sûr de lui. Il n'hésite pas à envoyer dès le départ ses écrits. Il se dit même d'ailleurs être le meilleur naturaliste et meilleur classificateur que ses condisciples de l'Université Caroline. Alors il a certainement toutes les bonnes raisons de ne pas douter de lui, mais c'est un trait de caractère quand même qui le différencie des autres.
Absolument, il a une assurance absolument incroyable, il a une mémoire d'éléphant, et en effet, il est évidemment capable, mais il sait qu'il sait, ça c'est vrai, et ça sera une des caractéristiques, et même dans un manuscrit que j'ai retrouvé où il décrit des mammifères, une classification avec son ami Geoffroy, qui l'accueille à Paris en 1795, l'article commence par « nous proposons, nous faisons ceci », et au milieu de l'article, le texte se transforme en « je », c'est-à-dire un des deux auteurs, qui est Georges Cuvier, prend le dessus sur l'autre.
Alors, en 1795, il quitte la Normandie pour arriver à Paris. Et vous écrivez dans votre biographie, en 9 mois, le jeune provincial de 26 ans passe de l'ombre à la lumière. Qu'est-ce qui le fait monter à Paris ? J'imagine qu'en plus, il attendait que ça, de pouvoir venir à Paris et d'être introduit par ses pairs.
Oui, on trouve une référence à Balzac. C'est Rastignac qui arrive de sa province et qui va tout d'un coup, pas prendre le pouvoir, mais devenir extraordinairement célèbre. Eh bien, c'est ça, bon, sa capacité à faire de l'anatomie et à publier des articles importants, et puis à se faire remarquer de l'ensemble de la communauté de l'époque en frappant quelques grands coups. En particulier, un premier grand coup, c'est de publier, il est professeur aux écoles centrales, qui étaient des écoles créées par la Révolution pour les jeunes étudiants. Il est employé à l'école centrale du Panthéon, là où se trouve le lycée Henri IV aujourd'hui. Il donne des cours de sciences naturelles, et pour illustrer ses cours, il va publier, éditer ses cours sous forme du traité élémentaire des animaux. Et ce traité, qui va être conçu comme un manuel, sera un véritable tour de force, puisqu'il va revoir l'ensemble de la classification des animaux et l'actualiser et proposer un manuel facile d'usage qui donne un tableau général, un tableau élémentaire de l'ensemble du monde animal, ce qui, évidemment, le distingue immédiatement. Le livre est imprimé, il le présente à l'Académie des sciences fin 1797 et il devient immédiatement célèbre avec cette extrême réputation. Il propose d'ailleurs l'édition de cet ouvrage au moment où Napoléon est reçu à l'Académie des sciences le même jour. C'est-à-dire que l'un n'a pas pu remarquer l'autre. Et tous les deux ont fait ce jour-là deux grands discours qui feront date. Et d'ailleurs, ils resteront en relation étroite.
Alors effectivement, Georges Cuvier, un peu plus tard, entre à l'Académie des sciences. Il entre aussi à l'Académie française, à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Il est aussi professeur au Collège de France.
Voilà, il va entrer à l'Académie des sciences comme le plus jeune de son temps. À un âge où, vraiment, vers la trentaine. À l'époque, on recrutait des académiciens très jeunes. Et il en deviendra très vite, d'ailleurs, au bout de quelques années, le secrétaire perpétuel. Il sera à l'Académie des sciences avant même d'être nommé professeur au muséum en 1802 pour remplacer Mertrude, un anatomiste qui était âgé et malade. Et donc, sa carrière commence véritablement à l'Académie et à ce qu'on appelait à l'époque la Société philomatique, qui était une société très active de naturalistes. Et il va frapper un deuxième grand coup, si je puis dire. C'est en avril 1796, lors de la séance publique de l'Académie des sciences, pour proposer un texte qui fera date, qui est un texte fondateur, sur les éléphants actuels, vivants et fossiles. Il a la chance d'avoir vu arriver au Jardin des Plantes, à la suite des saisies des armées révolutionnaires aux Pays-Bas, des restes de crânes d'éléphants. Un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique. Chose qu'on n'avait pas au muséum dans les collections. Il réalise immédiatement, en déballant les caisses avec Geoffroy, qu'il y a deux espèces distinctes d'éléphants sur la Terre. Un éléphant d'Asie, un éléphant d'Afrique, que leurs crânes sont différents, que les dents sont différentes, et que grâce à l'anatomie comparée, on peut dire, il n'y a pas une espèce d'éléphant vivante, mais plusieurs, deux. Et que, en même temps, il a sous la main un crâne de mammouth. Et que le mammouth est un éléphant, on peut le démontrer anatomiquement, mais un éléphant différent de l'éléphant d'Asie et de l'éléphant d'Afrique, et qui est donc une espèce perdue, qui n'existe plus aujourd'hui. Voilà la fondation, le texte fondateur de l'utilisation de l'anatomie comparée pour se plonger dans des espèces qui vivaient autrefois et qui ont disparu, puisque on sait que les mammouths, quand même, on connaît suffisamment la géographie de la planète à l'époque pour savoir qu'ils n'existent plus aujourd'hui. Et c'est ce texte-là qui va aussi rendre Cuvier incroyablement célèbre, avec la description aussi du fameux Megatherium, qui est un mammifère d'Amérique du Sud, dont un squelette était au musée de Madrid. Donc Cuvier a l'astuce de se saisir opportunément de documents inédits qui arrivent à Paris, du fait des guerres ou des documentations, et d'en tirer le meilleur parti possible pour fonder vraiment une nouvelle approche scientifique.
Et pour autant, Cuvier n'est pas transformiste, il ne croit pas en l'évolution des espèces, il est au contraire fixiste. Alors comment peut-il effectivement écrire ce texte dont vous venez de nous parler, et puis parallèlement être fixiste ?
Voilà, alors il est fixiste d'abord parce que dans sa philosophie et l'éducation qu'il a reçue en Allemagne, il considère que le monde est créé tel quel et que chaque animal forme un tout dans l'économie animale et qu'on ne peut pas changer une des parties d'un animal sans que les autres parties ne soient détruites ou ne fonctionnent plus. C'est une relation entre la structure et la fonction, une des lois de l'anatomie de Cuvier, et qui a une corrélation entre les organes. D'ailleurs, ce qui permet d'expliquer qu'un carnivore a des griffes et a des dents pointues. Il y a une corrélation. Mais cette économie animale fait que, pour Cuvier, des espèces ne peuvent pas bouger et changer. Elles sont telles quelles, elles fonctionnent très bien, Mais on n'imagine pas un changement parce que sinon le système ne fonctionnerait plus. Et alors il a, grâce à ce concept, la possibilité de remettre en cause un concept précédent qui est celui de la chaîne des êtres, où on imaginait que la vie allait du simple au compliqué par un continuum, sans faire de saut, en passant des cellules aux invertébrés, aux vertébrés, à l'homme, sans discontinuité. Cuvier dit « mais c'est impossible parce que les animaux sont organisés chacun avec une structure et je vais montrer qu'il y a dans la nature, dans le règne animal, quatre grands ensembles que j'appellerais des embranchements, celui des vertébrés d'un côté, celui des articulés qui sont les arthropodes, les insectes, tous ceux qui ont une carapace de chitine, et puis les mollusques. Et puis les radiaires, c'est-à-dire les méduses, celles qui ont une symétrie comme les oursins radiaires. Et donc on ne peut pas passer d'un radiaire à un insecte ou un vertébré qui a une symétrie bilatérale. De même, on ne peut pas passer d'un arthropode, d'un articulé qui a son squelette extérieur à un vertébré qui a son squelette intérieur. Et donc ça détruit la chaîne des êtres. Il faut donc considérer qu'il y a ces quatre ensembles distincts. Et c'est un apport considérable dans l'histoire de la classification zoologique. Idée que reprendra Darwin plus tard, bien sûr, pour montrer qu'il n'y a en effet pas une ligne, mais un buisson et un embranchement, et que ces embranchements sont issus d'une longue histoire verticale et non pas horizontale. Mais il est fixiste et il n'imagine pas des transformations, alors que son collègue et ami Lamarck, au Jardin des Plantes, pense que, au contraire, la vie peut évoluer, et ça, Cuvier s'est refusé à aller jusque-là.
Alors, un des autres apports de Cuvier, c'est à partir de 1808, la description géologique du bassin de Paris, avec Alexandre Brognard, des travaux qui marquent les débuts de la géohistoire. Alors là aussi, Philippe Taquet, il faut que vous nous en disiez deux mots.
Voilà, c'est là aussi une des étapes majeures dans l'histoire des sciences, mais grâce à Cuvier et avec son ami Alexandre Brognard. Brognard est géologue, il connaît bien les couches du bassin de Paris. Il y fait beaucoup d'excursions, d'ailleurs avec ses élèves de l'école centrale, lui, des Quatre Nations, qui étaient ici même, domiciliés à l'Institut de France à l'époque. Et ils vont ensemble faire des excursions, explorer le bassin parisien. Et l'apport de Cuvier, c'est de montrer que l'utilisation des animaux éteints, disparus, en particulier ceux qu'on trouve dans le gypse de Montmartre, les fameux paléothériums, anoplothériums, et puis les coquillages, permettent de suivre les périodes de dépôt des sédiments et de les dater convenablement latéralement, grâce à ces fossiles stratigraphiques, qui sont des repères horizontaux. Même quand les roches changent, si on a les mêmes animaux, on a la même époque. Et c'est cette utilisation des animaux et des fossiles qui permettent de reconstituer les étapes des dépôts des sédiments et donc les étapes de l'histoire de la vie. Et dans cette façon de faire, Cuvier va montrer qu'il y a des grandes ruptures. Il y a les animaux récents, le mammouth, avant les animaux du gypse du bassin de Paris, les mammifères, comme les anoplothériums et paléothériums, dont il va montrer qu'ils ressemblent à des tapirs, et puis avant, des grands reptiles, le fameux mosasaur de Maastricht, ou les reptiles volants. Et que donc, entre chaque période successive, il y a dû y avoir des grands événements qu'il va assimiler à des catastrophes. Et donc, la conclusion, après la fabrication de la carte géologique, et la première carte géologique du monde, la conclusion de Cuvier, c'est de dire qu'il y a eu des révolutions du globe et des catastrophes qui jalonnent l'histoire de la vie sur Terre. Ce qui, évidemment, va marquer énormément les contemporains de Cuvier.
Une autre publication dont, là, pour le coup, nous fêtons une date anniversaire, c'est 1812, c'est donc la parution des recherches sur les ossements fossiles de quadrupèdes.
Voilà, alors Cuvier, depuis 1795, au fond, depuis son arrivée au Jardin des Plantes, va reprendre chacun des articles. Le premier sur les éléphants, le deuxième sur le mégathérium d'Amérique du Sud, les troisièmes sur l'hippopotame récent et fossile, puis sur les rhinocéros, etc., etc. Il va reprendre tous ces articles qui ont été publiés soit dans le bulletin de la Société philomatique, soit dans les annales du muséum, pour les regrouper en 1812 dans quatre grands volumes, précédés d'un discours préliminaire qui deviendra le fameux discours sur les révolutions du globe, avec comme deuxième chapitre la description géologique, géognostique, comme on disait à l'époque, de la géographie minéralogique du bassin de Paris, et puis ensuite, dans une série de chapitres qui sont repris in extenso des descriptions précédentes, eh bien, l'ensemble de la description de tous les animaux fossiles connus à l'époque de Cuvier avec leur comparaison avec les animaux actuels. Ça fera 4 volumes qui aura évidemment énormément de succès, puis d'autres éditions, 2-3 éditions. Et c'est ce qui reste comme une œuvre absolument majeure, la recherche sur les ossements fossiles.
Il écrit énormément, il a aussi beaucoup de fonctions d'administration, comme vous avez pu nous l'expliquer, des fonctions d'État. Comment faisait-il pour s'organiser ?
Ah voilà, ça c'est très
amusant.
Est-ce
que c'est lui qui rédigeait tout ?
Eh bien voilà, ça d'abord, il avait reçu une éducation qui le rendait très efficace dans sa façon de rédiger des rapports, il avait eu un bon enseignement. Mais comme c'était un homme supérieurement organisé, il avait instauré dans ses locaux de travail un système incroyable qui est décrit en détail par Charles Lyell, le grand géologue anglais, le fondateur, lui, de la géologie britannique et de la géologie par ses principes de géologie, qui visite les bureaux de Cuvier en 1817 et qui, le lendemain de sa visite, écrit à sa sœur à Londres en disant « J'ai visité hier le Sanctum Sanctorum de Cuvier. C'est absolument incroyable comme cet homme est organisé. » Il a plusieurs bureaux en enfilade, 7 ou 8 bureaux. Chaque bureau a un pupitre, il écrit debout. Et sur chaque bureau, il y a une plume, des épingles pour accrocher les feuilles. Derrière lui, une bibliothèque avec tous les manuscrits et les ouvrages dont il a besoin. Un siège pour se reposer de temps en temps. Un calorifère qu'on déplace de pièce en pièce. Et chaque bureau est consacré à une tâche. Un bureau pour les animaux fossiles, un autre bureau à côté pour décrire les poissons, le troisième pour les rapports à l'Académie des sciences, etc., etc. Et sur chaque pupitre, il y a une petite sonnette, et quand il agite la sonnette, le préparateur qui est au rez-de-chaussée sait qu'il doit monter au premier étage le squelette d'un oiseau, etc., en fonction du son de la sonnette. Et donc Lyell comprend que grâce à ce système, Cuvier a été capable d'écrire des milliers de pages.
Alors, un autre point que l'histoire retient, qui n'est pas forcément un moment de l'histoire le plus brillant, c'est la fameuse dissection de la Vénus noire, Vénus Hottentot, en 1817. Donc, cette Vénus nous vient d'Afrique du Sud, elle a été donc emmenée en Europe, elle est montrée comme un animal de foire, et puis elle meurt, et là, donc, notre ami Georges Cuvier se met à la disséquer, comme vous me le disiez en préparant cette émission, comme c'était, on va dire, je ne vais pas dire la coutume, mais comme c'était la volonté à l'époque, en fait,
au
XIXe siècle.
C'est un épisode, en effet, étonnant. La Vénus Hottentot était une femme bushman, venant donc d'Afrique du Sud, passant par la Grande-Bretagne, montrée comme un animal de foire, comme vous l'avez dit, parce qu'elle était stéatopiche, c'est-à-dire avec des excroissances graisseuses dans le bas à l'arrière du dos, avec des particularités anatomiques qui, évidemment, fascinaient le monde blanc du XIXe siècle. Et elle est venue au Jardin des Plantes, on l'a examinée de loin, mais évidemment, tous les professeurs étaient absolument fascinés par cette femme qui est morte dans des conditions affreuses de pauvreté, dans l'alcoolisme. Et le préfet de police de Paris, qui a eu son corps, a porté le corps de la Vénus Hottentot au Jardin des Plantes, où ces messieurs du muséum, évidemment, n'avaient qu'une envie, c'était de faire la dissection de la Vénus Hottentot pour examiner ses particularités et son anatomie. Ce que Cuvier a fait et qu'il décrit dans un texte qui est terrible parce que c'est un texte misogyne, xénophobe, raciste, on dirait aujourd'hui. Mais en fait, à l'époque, dès que quelqu'un d'important mourait, on le disséquait. Et Cuvier n'a pas fait exception à la règle. À sa mort, en 1832, il a été disséqué par 11 personnes, y compris par ses propres préparateurs. Rousseau, et puis ses collaborateurs, et puis Orfila et Dupuytren, qui étaient les grands maîtres de la médecine de l'époque. Et comme de la même façon que l'on voulait savoir quelles étaient les particularités anatomiques de la Vénus, savoir dans les préjugés de l'époque si elle était plus proche du singe que de l'homme, ce qui est terrible, mais ce qui étaient les idées de l'époque du XIXe siècle, on a voulu savoir est-ce que le cerveau de Cuvier pouvait montrer des traces de sa superbe intelligence. Dans les deux cas, c'était aussi ridicule de savoir l'une ou l'autre des options et des hypothèses, parce que c'est ce que Steve Jay Gould a très bien raconté dans un excellent ouvrage qui s'appelle « La malmesure de l'homme », où ses préjugés raciaux faisaient faire des bêtises aux scientifiques. Et on ne pouvait évidemment pas tirer ce type de conclusion, mais on les a tirées. Et à l'époque de Cuvier, Darwin, après, tout le monde faisait la même chose.
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans votre livre, à la page 303, donc, qui est donc la biographie au sens strict du terme, hein, donc avec des extraits de correspondances et des extraits des textes de Georges Cuvier lui-même, en fait, en 1786, il est lui-même indigné par les propos de Christoph Meiners, un historien et littérateur allemand, qui fait justement une hiérarchisation de la race humaine dans son histoire de l'humanité. Alors, c'est curieux, puisqu'il est choqué. Parce que donc Christoph Meiners écrit que les blancs sont beaux, intelligents et forts et que les peaux sombres sont faibles, ont des caractères médiocres. Je ne dirai pas tout, mais voilà entre autres ce que l'on peut lire. Et puis un peu plus tard, donc en 1815, comme un retournement de situation, comment on explique justement cette évolution ?
Oui, c'est le paradoxe de la situation. Cuvier, tout jeune en Normandie, a un jeune serviteur noir qui est très intelligent, très sympathique, musicien, qui chasse les oiseaux pour lui et... Et Cuvier, évidemment, en le fréquentant, se rend compte que cet homme est absolument charmant et n'a pas du tout les défauts qu'on attribue aux gens de son époque. Et donc, curieusement, après, c'est finalement probablement la curiosité de l'anatomiste qui prend le dessus et qui va disséquer la Vénus hottentote, mais avec plein de préjugés scientifiques. Par exemple, Cuvier a publié un article avec Geoffroy sur l'angle facial qui avait été inventé par les Hollandais et les Allemands pour savoir si l'angle de la face mesurait depuis le sommet du crâne jusqu'à l'avant du nez avec un angle sous le menton permettait de mesurer le degré d'intelligence des mammifères jusqu'à l'homme en passant par les primates. C'était absolument stupide, mais c'était la vision de l'époque et même après Cuvier, vous savez, on a dit et pensé scientifiquement que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes. Et les églises se ralliaient à ce genre de préjugés. Et encore aujourd'hui, des tas de préjugés existent sur le regard que certains hommes portent sur leurs semblables ou sur les autres, quand on allait explorer les populations lointaines. Donc la malmesure de l'homme fait encore bien partie, malheureusement, de la vision de certains sur les autres.
Alors, on arrive au terme de notre émission. Dernière question, Philippe Taquet. Donc, Georges Cuvier meurt en 1832, sans descendants, je crois. Ses enfants sont tous morts. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Georges Cuvier est un génie incompris de notre époque ? Est-ce que vous pensez aujourd'hui que tous ces aspects qu'on vient d'aborder en dernière partie d'émission prennent le pas sur tout ce qu'on a abordé au tout début de l'émission ?
Non, je pense qu'il a été un très, très grand savant et que, au fond, le bilan est contrasté. Oui, aux qualités extraordinaires et à l'apport de Cuvier dans le domaine de l'anatomie, de la paléontologie, de la géologie. Et là où il est critiqué, c'est d'avoir été un homme de pouvoir traversant toutes les soubresauts de l'histoire de France en montant sans cesse en pouvoir et en puissance, ce qui, évidemment, l'a rendu peu sympathique aux yeux de tas de gens, comme même Stendhal ou les gens de son époque, considérant qu'il était très ambitieux. Et son caractère n'a pas facilité, en effet, cela, plus, effectivement, des écrits assez désagréables qu'il a eus vis-à-vis même de ses confrères, comme Lamarck, où il n'a pas été très gentil vis-à-vis de Lamarck. Mais, au fond, comme tout homme, comme tout grand homme, il avait des qualités et des défauts. Mais, personnellement, je pense que, sur le plan scientifique, le bilan reste évidemment très largement positif.
Je vous remercie, Philippe Taquet. Alors, je rappelle le titre de votre biographie, où je le rappelle qu'il s'agit de la première partie jusqu'à ses 26 ans, Georges Cuvier. Donc, la deuxième partie arrivera un peu plus tard. Georges Cuvier, naissance d'un génie, édition Odile Jacob, publiée en 2006. Merci à vous de nous avoir apporté vos éclaircissements concernant le portrait de Georges Cuvier. Et j'espère à bientôt pour la deuxième partie de votre ouvrage. Merci à vous.
Merci.
Thank you.